nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À vrai dire, je ne savais pas très bien de quoi je vous parlerai aujourd'hui, parce que la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, la dispute à la solennité du Sacré-Cœur, partout dans le monde, on célèbre aujourd'hui la solennité du Cœur de Jésus, et en France, encore une exception française, on célèbre la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Bref, je ne savais pas très bien à quelle sauce je serais mangé et si la scola aurait préparé la messe du Sacré-Cœur ou la messe de Saint-Pierre et Saint-Paul. J'ai donc choisi une sorte de sermon qui conviendrait aux deux, pour tout vous dire. Voilà, un sermon qui concerne la sainteté. Nous sommes au début de l'été et le temps de la plage approche pour certains d'entre vous peut-être. En tout cas, vos petits écrans en seront pleins, les journaux également. On nous parlera cet été de mode. Si on devait définir négativement ce qu'est la sainteté, eh bien, il me semble qu'on pourrait dire qu'elle est l'exact opposé de la mode. Donc intéressant, au début de l'été, de bien se remettre en tête ce que doit être notre vie chrétienne, l'opposé de la mode, mesdemoiselles, mais aussi messieurs. Qu'est-ce que la mode, en effet, sinon ce modèle unique auquel essaient de ressembler en tout point les individus d'une génération, voire de plusieurs générations? Songez combien l'effet de mode est artificiel. Il est artificiel parce que le parfait adepte de la mode, la parfaite adepte de la mode, tente de se couler à grand renfort d'artifice, et à grand peine, bien souvent, il faut quand même le dire, il essaye de se contorsionner pour ressembler à l'égérie du moment. Un peu de gonflette pour ceux qui sont nés freluquets, et puis un régime drastique pour ceux que la nature a davantage dotés. Vous voyez, on ne correspond jamais au modèle qui est imposé. Alors on est obligé de se faire violence. La mode est d'autant plus redoutable qu'elle est intrinsèquement éphémère. Au bout de quelques semaines, parfois, mais un peu plus normalement, eh bien, il faut qu'un modèle cède la place à un autre modèle. Et voilà que, tel le caméléon, notre adepte de la mode, et nous en sommes, et moi-même, prêtre, combien de confrères observent une certaine mode vestimentaire, un peu étrange, ésotérique pour ceux qui n'en connaissent pas les règles, mais je vous assure qu'il existe une sorte de mode vestimentaire du clergé, et que de mois en mois, on change les règles. Et oui, ça arrive, même pour cette tenue qui date du Concile de Trente, que voulez-vous. C'est ainsi, donc, le caméléon, ben, nous sommes tous, et voilà qu'il faut qu'il change de régime, voilà qu'il faut qu'il change sa garde-robe, voilà qu'il faut qu'il repeigne son appartement, parce que tout cela est devenu has-been, d'un coup. C'est pas étonnant dans ces conditions qu'on parle de fashion victims, vous savez, les victimes de la mode. Mais victimes, en effet, nos pauvres contemporains, encore plus que nous, le sont. Ils le sont parce que des bourreaux, des dictateurs de tout poil, viennent régulièrement leur donner le la en matière vestimentaire, architecturale, touristique, technique, que sais-je, et il faut suivre ou périr. Aux antipodes de ce phénomène de la mode, que je vous présente de manière caricaturale, j'en conviens, il y a la sainteté. La sainteté n'a rien d'éphémère, contrairement à la mode, et elle n'a rien d'artificiel. Elle n'a rien d'éphémère parce que, précisément, la sainteté est absolument indémodable. Le saint, c'est surtout celui qui est élevé sur les autels, c'est-à-dire qui est reconnu tel, il est absolument intemporel. Sa figure, précisément parce qu'il est saint, est dans une gloire éternelle, la gloire éternelle de Dieu. Il entre dans l'éternité et on n'est plus du tout dans l'éphémère, dans l'instant qui passe, dans la mode. On est vraiment dans la perpétuité. Voilà que le saint, devant ses frères, les hommes, obtient une grande estime. Si le parfum dernier cri, vous savez bien, s'évente très rapidement, et si le goût qu'on en a passe, l'odeur de sainteté, elle, demeure perpétuelle. Là, on a un contraste quant au caractère éphémère de la mode et au caractère perpétuel de la sainteté. On a ensuite un deuxième contraste, je vous disais, quant au caractère artificiel de la mode et au caractère tout à fait naturel, ou plutôt surnaturel de la sainteté. Aucun maquillage à se coller. Vous voyez, lorsque vous, mesdemoiselles, vous, mesdames, vous pouvez trouver le maquillage un peu lourd, un peu coûteux et un peu difficile à appliquer, enfin en tout cas c'est toute une discipline, si j'ai bien compris, si j'en crois mes sœurs, toute une ascèse. Eh bien voilà, pour la sainteté, aucun lifting, aucune cure ne sont requis, on reste nature. C'est triste, je trouve, mes frères, de voir défiler sur les podiums tant de mannequins qui sont totalement refaites, qui sont totalement trafiquées, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'effet que ça me produit, lorsqu'il m'arrive de croiser sur un journal ou à la télévision de ces défilés, c'est une sorte de défilé militaire, où chaque élément est exactement conforme au précédent et au suivant. Chacun de ces éléments sont tous interchangeables. Il n'y a, peut-être l'avez-vous remarqué, sur les traits de ces mannequins, rien de personnel, et c'est voulu. Rien de personnel. Voilà, j'ai lâché le mot « personnel ». La sainteté est quelque chose de personnel. La mode est précisément quelque chose d'impersonnel. Personnel. Pour devenir un saint, il ne s'agit pas de ressembler à un modèle unique. Ça, je pense que vous en avez déjà l'expérience, qui nous serait imposé de l'extérieur, comme le fait la mode. Mais il s'agit d'épanouir un potentiel qu'on a en soi. Un potentiel qui gît dans notre nature. Et un potentiel qui gît depuis notre baptême. Vous voyez, par nature, vous avez des qualités, vous avez certaines inclinations, certaines tendances, des traits de caractère, et par la grâce, vous avez d'autres traits de caractère, ou plutôt, vos traits de caractère naturels sont renforcés par cette grâce du baptême. En gros, le mot d'ordre de l'Église, c'est « deviens ce que tu es ». Alors je sais que c'est étrange pour ceux qui ont un peu de lettres, parce que ce mot-là, c'est Nietzsche qui l'a écrit pour la première fois, et dans un contexte un tout petit peu différent d'un sermon dominical, voyez-vous. Mais je trouve cette phrase tout à fait appropriée pour décrire la sainteté. « Deviens ce que tu es, tu as un potentiel en toi naturellement et surnaturellement, laisse ce potentiel se développer. Tu es un bourgeon, laisse la fleur s'épanouir. » Tandis que les modistes ne cessent de nous écrier « deviens un autre ». Efforce-toi de ressembler à ce que je te propose comme modèle. Alors tu seras quelqu'un aux yeux de la société. Voyez, à la vérité, il existe autant de types de sainteté que de saints eux-mêmes, que les personnes devenues saintes. Je ne prendrai qu'un exemple, enfin, après cette très longue introduction, trop longue me direz-vous, je vous parle enfin de saint Pierre et saint Paul. Si on a bien deux saints qui sont à la fois semblables par la sainteté, par l'amour qu'ils avaient du Christ, par la véhémence de leur caractère, et puis également par la fin qu'ils ont connue, tous les deux sont morts dans le martyr, en même temps, ils étaient d'une différence absolue. Quoi de commun entre ce pêcheur du lac de Tibériade, d'extraction modeste, sans aucun doute, acolyte du Christ depuis les premiers jours, et, on doit bien le dire, avare de la plume? Combien d'écrits avons-nous de Saint-Pierre? Pas grand-chose. Quoi de commun entre lui, donc, et Paul de Tarse? Fils de famille, citoyen romain, pharisien, qui maîtrisait le grec, le latin, l'hébreu, comme peu aujourd'hui, qui persécutait du chrétien, avant que de devenir l'ouvrier de la 11e heure. Vous voyez, Saint-Pierre est là depuis le début, Saint-Paul arrive vraiment au dernier moment. Et il devient le prolifique prédicateur que l'on sait dans des épîtres de toute beauté. L'un est de pierre, l'autre est de feu. Le premier détient les clés du royaume, le deuxième porte le glaive. C'est vraiment deux saints qui n'ont rien à voir avec l'autre quant à leur qualité première et naturelle et surnaturelle. Certes, ces deux-là sont les colonnes de l'Église et ils sont aussi nécessaires l'un que l'autre à l'Église quant à sa fondation, mais on doit bien le dire, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La grâce, mes frères, ne détruit rien. Vous connaissez cet adage, la grâce ne détruit rien, mais elle surélève, elle assume, elle rend parfaite la nature. Elle porte à l'incandescence et à une puissance que la nature n'avait pas en elle-même. Vous voyez, c'est une sorte d'injection pour faire comprendre aux enfants au catéchisme. On parle de la potion magique d'Astérix et Obélix. Vous voyez, ça c'est la grâce. La grâce actuelle, c'est la petite gourde d'Astérix. Ça ne marche qu'à un temps, c'est ponctuel. La grâce sanctifiante, c'est ce dont a bénéficié notre gros Obélix. Voilà. Et, enfin, à la différence qu'Obélix ne peut jamais la perdre et que nous le pouvons. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est totalement immergé dans un bain de potions magiques dès la naissance. Voilà donc la grâce qui est injectée, si l'on veut, dans notre nature, avec toutes ses qualités, mais aussi avec ses limites, et qui nous porte à l'incandescence, qui nous fait devenir une image vivante de Dieu. Ce qui détruit, enfin, ce que détruit la grâce, parce que vous allez me dire, mais la grâce, elle est quand même, il y a une grâce qui est là pour nous réparer. Vous n'allez pas me dire que tout dans notre nature est à garder, qu'il suffit de devenir un surhomme, un superhomme. Non, il ne s'agit pas seulement de souffler dans un ballon, de laisser le ballon tel quel. Bien sûr, la grâce nous convertit, la grâce nous purifie, la grâce nous soigne. Mais que fait-elle? Elle maintient entièrement notre nature. Ce qu'elle retire de nous, c'est uniquement le péché qui est venu corrompre notre nature. Voyez. La grâce n'établit aucune uniformité entre les êtres. Elle a cette capacité d'adaptation absolue à chacune des natures que nous incarnons personnellement avec nos caractères très différents. Vous me direz pourquoi Dieu, lorsqu'il nous appelle à la sainteté, a voulu que les particularités demeurent. Elle est peut-être étrange cette question, mais je crois qu'elle vaut la peine. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que nous devenions tous des petits saints de niche, avec un petit peu tous la même bouille? Ce serait d'ailleurs une preuve de sa puissance, une preuve que nous sommes tous habités par la grâce. Pourquoi faut-il que nous ne nous ressemblions pas lorsque nous devenons des saints? Mais mes frères, celui qui est l'auteur de la nature, qui a voulu que nous naissions avec tel ou tel caractère, et qui a permis que nous naissions avec telle ou telle limite, mais c'est Dieu lui-même. Il serait contradictoire avec sa propre sagesse, en nous donnant la grâce, qu'il détruise cette nature. Je crois qu'il y a un autre motif qui est quand même un peu plus profond. La pluralité des reflets dans la nature, de toutes les perfections que vous portez, chacun, vous portez ici une, deux, trois perfections, des talents. Ce sont des reflets de l'unique perfection qu'on trouve en Dieu. L'un est un intellectuel brillant, l'autre est un suractif très efficace, quelqu'un d'autre est un poète très doux, d'autre sera d'une patience à toute épreuve. Chacun d'entre nous, nous avons un, deux, trois talents, et chacun de ces talents est un reflet de ce qui existe en plénitude en Dieu. Imaginez s'il manquait une de ces spécificités. Imaginez si nous sombrions dans l'uniformité, mais il manquerait des reflets à la perfection divine. Nous ne serions pas à la gloire de Dieu. Il manquerait quelque chose. Je crois également qu'on trouve un autre motif dans le fait que Dieu ait voulu que nos caractéristiques propres demeurent dans la sainteté, c'est que l'Église est mère et maîtresse pour l'ensemble du monde. Et nous devons tous, enfin chacun d'entre nous doit être un apôtre, avec des qualités particulières. Pourquoi? Parce que nous aurons à nous adresser à telle ou telle frange de la population. Si nous avions tous le même discours, si nous avions tous la même qualité, nous n'aurions qu'un public potentiel. Parce que nous sommes différents, parce que nous connaissons des milieux différents, nous avons des aptitudes différentes, les uns parlent, les autres rendent service, les uns sont capables de faire du social, comme on dit, d'autres un peu moins, mais ils sont capables de s'occuper de l'élite, très bien. C'est autant de possibilités d'aller porter l'évangile aux quatre coins du monde. En laissant en place ces différentes aptitudes dans les êtres humains, Dieu permet que l'Église soit vraiment universelle et vraiment polymorphe. Voilà. Je crois ce qui est essentiel à saisir sur la sainteté, elle est éminemment personnelle. Mais vous me direz, rassurez-vous, nous approchons de la fin, vous me direz, dans la quête de sainteté, vous êtes en train de nous dire qu'on ne cherche pas à imiter un modèle, mais qu'on doit être soi-même, et que la grâce vient parfaire ce soi-même que nous sommes. Mais, je vous demande pardon, monsieur l'abbé, quid de cet ouvrage qu'on appelle « L'imitation de Jésus-Christ » ? Quid de cette parole de saint Paul qui nous dit « Soyez mes imitateurs ». Vous nous dites que dans la mode, il s'agit d'imiter, et que dans la sainteté, il n'y a rien de commun avec ce phénomène. Mais voilà une objection de taille. Effectivement, on nous parle de l'imitation de Jésus-Christ, de l'imitation des apôtres, bien sûr, sans pour autant faire de nous un fan club, ce qui serait assez navrant. Mais mes chers frères, je maintiens ce que je viens de vous dire. Pour devenir un saint, notre effort ne doit pas porter sur l'imitation de quelqu'un qui nous est extérieur, mais une sorte de singerie du maître, si parfait soit-il, si vous voulez, parce qu'on échoue systématiquement. On n'est qu'un pâle reflet dans ces cas-là. Et on n'y arrive pas, parce qu'on essaye de faire ça à toute force. Et ça donne, si vous voulez, la parfaite figure du chrétien modèle, les mains jointes, les yeux au ciel, comme ils s'imaginent que notre Seigneur était ou que la Vierge Marie était. C'est tout à fait ridicule. On n'est pas du tout dans l'ordre de la sainteté. Ce qui est nécessaire pour la sainteté, c'est simplement d'être soi-même, tout en laissant le Saint-Esprit, qu'on appelle le Maître intérieur, nous expliquer qui nous devons être. C'est-à-dire, quel est le plan de Dieu sur nous? Quelle est notre place? Si nous avons telle ou telle qualité, c'est parce que Dieu, de toute éternité, a voulu que nous réalisions telle ou telle œuvre pour notre salut et pour le bien du monde. Mais seul le Saint-Esprit peut nous guider pour discerner quelle est notre vocation. Voilà ce qu'il s'agit de faire pour être un saint, non pas imiter quelqu'un, mais répondre à sa vocation. Et cette vocation, elle réside en nous-mêmes, avec encore une fois les qualités que Dieu a voulu, qu'il a mises en nous, dans notre nature, et qu'il laisse croître par l'effet de sa grâce. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance extérieure à avoir aussi avec le maître, bien sûr, qui n'a rien à voir avec la ressemblance physique, parce que Jésus ne nous a pas demandé d'être aujourd'hui chevelu, brun, de faire 1m90 et d'être galiléen, sinon nombre d'entre nous n'étaient pas chrétiens, vous voyez, ils n'auraient aucune chance d'accéder au ciel. Non, le Seigneur a voulu qu'avec nos spécificités propres, nous laissions l'Esprit Saint nous expliquer ce qu'il voulait pour nous. Eh bien, chers frères, je n'ai pas vraiment parlé de Saint-Pierre et Saint-Paul, je me suis mis d'eux comme d'un prétexte, pour vous parler de cette sainteté personnelle qui est aux antipodes de la mode. Alors, la question, finalement, que vous devez vous poser à la fin de cette petite homélie ou de ce petit sermon, est la suivante. Est-ce que cet été, je serai à la remorque de la mode, lorsque je me rendrai à tel ou tel mariage, lorsque j'irai sur telle ou telle plage, lorsque j'irai faire telle ou telle course? Est-ce que je voudrais imiter quelqu'un bêtement? Et est-ce que j'aurai du respect humain jusqu'à me couler dans le moule? Ou est-ce que, oui ou non, j'accepterai de devenir davantage ce que je suis? Fondamentalement, ça ne veut pas dire que je céderai à tous mes caprices parce qu'on m'a demandé d'être ce que je suis et je suis comme ça, alors acceptez-moi comme ça et je vais devenir un saint. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais est-ce que, oui ou non, je veux que le Saint-Esprit vienne en moi cet été où j'ai un peu plus de temps, m'aider à discerner davantage comment il veut que je sois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.